Cube Radio.
Tu as un verre?
Oui, je vais le mettre dans l'escalier parce que j'ai pas eu le temps de me maquiller. Il y a 10 minutes, j'étais en train de nettoyer la cuisine.
Ils vont dire que c'est une maison sexiste parce que c'est la femme qui fait le ménage.
Non, c'est la femme de ménage qui fait le ménage, sauf que la femme de ménage a pas fait la job comme il faut. Il aurait fallu que je mette, tu sais, le petit costume de gouvernante, de soubrette que je mets quand on fait des ébats sexuels, toi et moi?
Oui.
Non, il y en a pas. Pourquoi tu dis oui?
Ben, je sais pas. Tu trompes d'amant, là. Alors, c'est qui on reçoit?
On reçoit...
Je vais faire comme si je le savais pas,
ben,
là,
oui,
parce que...
Oui, bon. Comme si je le savais pas. Alors, moi, je pourrais te dire, mon bel amour, devine qui vient souper ce soir.
Là, je dis, je sais pas.
Puis là, moi, je réponds. Alors, c'est deux humoristes, un homme et une femme. Ils ont tous les deux fait l'École nationale de l'humour, sauf que lui continue vraiment à faire des spectacles sur scène et tout ça, alors qu'elle est plus orientée maintenant comme chroniqueuse, elle est auteure, elle fait plein de choses, elle est comédienne et plein de choses, mais c'est une des femmes les plus drôles que je connaisse. Là. À chaque fois que je fais une entrevue avec elle, je pisse de rire. Donc, on reçoit Peter McLeod et Guylaine Gay. Alors, regarde, moi, j'ai très hâte parce que, Guylaine, elle a un surpoids, mais elle l'assume totalement, elle fait plein de blagues là-dessus. D'ailleurs, elle est mannequin taille forte pour le magazine Véro, puis même pour l'Aubainerie, puis tout ça. Et donc, elle parle de son poids sans aucun problème. Là. Elle assume tout à fait ses rondeurs et tout ça. Peter McLeod, dans ses spectacles, là, il en fait des blagues sur les personnes de taille forte.
Des grosses.
Bon.
C'est ça, ce que tu dirais, là, mettons, s'il n'y avait pas de micro, là. Je dirais, elle a du surpoids.
Ah, ben là, je suis en train de me mettre du rouge à lèvres, fait que je dirais rien, de toute façon, s'il n'y avait pas de micro. Mais, ben oui, elle est grosse, puis de toute façon, je pense que même Guylaine, elle utilise ce mot-là, là, faut pas non plus capoter. Mais, et lui, il fait des blagues sur le poids dans ses spectacles, fait que j'ai hâte de les confronter un peu tous les deux à ça.
Mais les deux ont dû se défendre. Tu sais, elle, j'imagine, elle se faisait écœurer à l'école parce qu'elle était comme grosse, là. À l'école, j'imagine, elle était... Oui, mais puis, tu sais, elle a dû aussi travailler fort, puis, tu sais, lui, c'était sa petite main. Tu sais, non, mais les deux avaient comme son petit bras. Les deux avaient des choses... Ouais. Mais bref, alors les deux se faisaient peut-être écœurer à l'école parce qu'ils étaient différents.
Sûrement écœurés.
Ils étaient différents, puis ils ont dû se faire une carapace.
Mais la différence, en plus, elle la vit au quotidien parce qu'elle n'a pas un, mais deux enfants autistes. Fait vivre avec des gens qui sont différents, puis le regard des autres et tout ça, c'est quelque chose qu'elle a vécu, que lui a vécu, puis qu'elle vit au quotidien avec ses deux enfants. Fait que je pense que ça va être passionnant.
Mais lui, y a-t-il des enfants?
On va lui demander tout de suite.
OK.
On va lui demander à l'instant parce que c'est peut-être lui, tu sais. C'est lui ou elle? Oh, ben la belle Guylaine Gay, bien attendons! Rentrez vite parce qu'on gèle
comme
dans le cul d'un
lien cassé.
Oui, mais j'ai mis du sel.
Ça va bien, pareillement.
Bonjour. Salut! Bienvenue dans notre humble demeure.
Merci de m'inviter.
Sarah, t'es allergique aux poissons, peut-être ça, non?
Non.
T'es allergique à quoi?
Au sarrasin.
Au sarrasin, c'est
ouais,
quoi ça?
Au sarrasin. Je peux pas aller au festival de la galette de sarrasin de Saint-Eustache.
Oh, mais quel dommage! Tu sais pas ce que tu manges.
Ben, ça ne
jamais
bon,
aller.
Ben,
jamais allé.
Mais je peux pas.
Mais c'est la seule chose à laquelle t'es allergique, là.
Mais pendant les croisades aussi, les musulmans étaient allergiques au sarrasin.
Oui, c'est comme dans les visiteurs, à un moment donné, ils voient le gars des postes arriver, puis ils se mettent à crier « Les sarrasins! Les sarrasins! »
Mais là, ça a l'air qu'on t'offre pas un verre de vin.
Non, je bois pas beaucoup d'alcool.
T'en as jamais bu?
Oui,
j'ai arrêté à un moment donné.
À vrai dire, je serai franche.
Oui, sois franche, s'il te plaît.
Comme je suis... aura la ménopause, quand je prends de la boisson, ça me fait faire des bouffées de chaleur. assez intense.
Ça empire les symptômes de la périménopause.
Oui,
okay, c'est bon à savoir.
Là, vous avez déjà un sujet en commun.
Mm-hmm.
Sophie est là-dedans.
Ben ouais. Ben ouais.
Sophie, la nuit, là, il faut qu'elle enlève toutes les couvertures et tout ça, là, parce qu'elle a chaud, elle a chaud, elle a chaud. J'ai l'impression...
Ça, je me retrouve tout nu dans le lit et il déteste
ça. Doit,
j'ai l'impression... J'ai l'impression d'entendre un monologue de Clémence Desrochers.
Oui, je suis un monologue vivant de Clémence. Ben, de retour après la ménopause.
On est plusieurs. Mais...
Toi, c'est la pré-ménopause ou t'es dans la ménopause?
Ben là, à vrai dire, j'approche. Là. La ménopause, c'est quand tout est fini. C'est quand... À vrai, j'ai écrit un livre là-dessus.
Ben oui,
la ménopause,
dame mature.
La ménopause, c'est quand il y a arrêt des règles pendant un an. Donc, quand ça fait un an que tu n'as plus de règles, on peut considérer que tu es ménopausé. Avant ça, c'est la préménopause. Mais la périménopause, c'est tout ce qui entoure.
C'est les symptômes. Manque de concentration.
Oui.
As-tu ça?
Oui, absolument. Perte de... trouble de la mémoire.
Bon, voilà.
Mémoire.
J'ai vraiment l'impression d'être Alzheimer précoce des fois, là. Mais je vais dire, moi, j'avais plein de symptômes, puis je pensais pas que j'étais en préménopause. Donc, j'avais plein de symptômes, puis je mettais pas les choses entre elles. Je faisais pas de lien.
Ouais.
Je faisais de l'insomnie, je faisais de l'anxiété, mm-hmm. perte de mémoire, perte de concentration. Puis à un moment donné, j'ai lu un texte, ça prend juste un texte, mm-hmm. puis il mettait les quatre symptômes principaux de la périménopause. J'ai fait comme, ah! OK, je viens de tout comprendre.
Ouais.
Fait que maintenant, et puis irritabilité, le cinquième.
Ouais.
Et là, maintenant, chaque fois qu'il arrive quelque chose, puis que je suis de mauvaise humeur, je regarde les garçons, c'est-à-dire mon fils et mon mari, puis je dis, mais que voulez-vous, mes chéris? C'est la périménopause.
C'est vrai.
Fait que j'ai toujours une excuse pour être de mauvaise humeur.
Fait que pendant 16 ans, c'était comme, c'est mes règles, puis là, c'est parce que j'ai plus de règles que je suis bête, tu sais.
Richard, si tu savais ce qui se passe dans notre pauvre corps, pour vrai.
Oui.
Comme si on voulait être désagréable.
Alors, toi, est-ce que tu connais Peter McLeod dans la vraie vie de tous les jours?
Non, je ne l'ai jamais rencontré.
Mais ça, j'adore ça.
Comment tu le vois? Comment tu l'imagines? As-tu un préjugé? As-tu une idée préconçue du bonhomme?
Bien, ce que je connais de lui, évidemment, c'est la personne publique. Moi, je suis certaine, puis peut-être je me trompe, mais ça me semble être un gars bien sensible. J'ai grandi, moi, à Verdun.
Hey, t'es pas sérieux?
4e avenue et Wellington.
Oh! Mais voyons donc! Dans le hood!
Dedans.
Ouais?
Dans le hood, t'étais pas dans le Verdun chic.
Non.
Le Verdun
Le Verdun rough. Oui, écoute, c'était fou. Moi, j'ai adoré Verdun, cela dit. Pour quelqu'un qui a de l'imagination comme moi, c'était flyé, mais c'était rough. Là. C'était dans le temps aussi que les francophones et les anglophones, c'était la guerre.
C'est la gueule, mais oui.
Puis il y avait des batteurs là, après l'école, les Anglais qu'on défendait.
À coups de batte de baseball, nous autres, ils venaient, ils nous attendaient parce qu'ils finissaient l'école avant nous.
Ouais.
Puis ils nous attendaient dans la cour d'école.
Ouais.
Puis quand on sortait, il fallait courir parce qu'ils nous couraient après, vraiment.
Ouais.
Et à un moment donné, à l'école, ils nous ont fait terminer plus tôt. Pendant une année, ils ont fait terminer plus tôt. D'ailleurs, il y a eu un reportage à Radio-Canada là-dessus pour qu'on puisse rentrer chez nous avant que les Anglais débarquent. Verdun, il y a deux choses importantes à Verdun. Les feux.
Oui,
les feux de chêne, il y en avait à tous les jours. Et les batailles français et anglais.
Mais ce que Richard ne te dit pas, par contre, c'est que sa première blonde, c'était une Anglaise. Fait que t'étais un peu un traître à ta cause, finalement.
Colleen!
Hey, le nombre de fois qu'on entend parler de Colleen. Mais Colleen, raconte la fois où tu as retrouvé Colleen.
Qui Colleen?
Colleen Campbell, c'est ma première blonde, c'est une anglophone, puis j'étais super en amour avec, puis elle m'avait quitté, puis j'avais trouvé ça très difficile, puis j'avais beaucoup pleuré. Et j'étais jeune, je sais pas, 13 ans, là, et 14 ans. Et à un moment donné, t'sais, avec Facebook, tu dis, où c'est qu'est rendu Colleen?
Puis
je regarde. Je regarde Colleen Campbell, puis elle, je la vois un peu plus vieille, un peu mal vieillie, Colleen Campbell. Puis rendue, je pense, à Toronto, whatever. Puis là, je regarde ça, puis je voulais dire un petit bonjour. Puis là, je te souviens-tu de moi, Richard, tu demeurais à sa rue Rochebrook, on a sorti ensemble. Elle avait aucune idée. J'ai laissé aucun Christy de souvenir.
Ça fait mal à l'ego.
Ouais.
Alors que moi, si je rencontrais l'homme avec qui j'ai perdu ma virginité, je suis sûre qu'il se souviendrait de moi.
Qui?
Je me souviens même plus de son nom. Ben, je me souviens de son prénom, mais pas de son nom de famille.
Quoi, t'étais une guidonne?
Non, mais c'est pas ça. Ben, franchement.
Non, j'irais dans cette équipe-là.
Toi, dans cette équipe-là,
Oui, mais je connais pas son nom de famille, pour vrai.
Ben, c'est ça. Moi, il s'appelait Laurent, ben, c'était peut-être le même que toi.
Non, moi, c'était un Français.
Ben, moi aussi.
Qui étudiait en théâtre.
Encore moi, par contre.
Christophe! Je m'en rappelle parce qu'il m'avait demandé de crier son nom pendant l'acte, puis j'ai tellement ri que...
Il t'a demandé de crier son
nom. Première fois, là, c'était un peu traumatisant. Ouais. Mais moi, à vrai dire, pour faire une histoire courte, à 21 ans, j'étais encore vierge.
Okay.
Là, un soir, j'ai dit, ça finit.
C'est à soir que
ça se passe. Ça se passe. Et avec une de mes amies, on était sortis sur... on était allés au bar qui est maintenant le Commensal sur Saint-Denis.
Oui,
Commensal, je me rappelle pas du nom, mais enfin, on s'en va là.
Ah, non, c'était pas cette hauteur-là. Ouais.
Le café quelque chose, là, en tout cas. On s'en va là, puis il y a ce beau, très beau gars-là qui est au bar, tu sais, puis on se met à parler, tu sais. Et finalement, ça a été ma première expérience sexuelle. Et lui, étudiant en théâtre, très théâtral, tu sais, puis en plein, pendant que je perdais mon hymen, m'a demandé « Crie mon nom! » Puis là, moi, je suis partie à rire, parce que c'était trop. Et voilà, c'est ma première... Je me rappelle pas de son nom de famille, mais...
Ah, Christophe!
Exact!
Voyons donc.
J'étais là. C'est bon, Christophe.
J'ai pas demandé de crier bon. Guylaine, je trouvais ça moins idiote. Mais non, c'était un peu traumatisant.
Oh! Oh. Viens le temps. On va aller accueillir la pique. OK, j'arrive. Oh, t'es trompé, c'est demain soir.
Comment ça va?
Salut! Salut, ça va? Merci d'être là.
Oui, c'est bon. Très contente de... te recevoir chez nous.
C'est un plaisir partagé.
Puis là, la question que je me posais, c'est toutes les photos que je vois de toi depuis quelques semaines.
J'ai le choix là.
T'as une tuque.
Ouais.
Fait que là, je me dis, vu que t'arrives avec une tuque, vas-tu garder ta tuque à l'intérieur?
Non.
T'as même un petit élastique pour tes cheveux.
Tu dis quelque chose. Vas-y, elle me l'a dit tantôt cet après-midi.
Fais attention à comment tu le dis.
Elle aime pas tes cheveux longs.
Non.
Elle aime pas ça.
Bon, ben, Krim, tu pourras faire un beau spec avec ma mère. Vous allez avoir du fun pour me juger.
Non, pas que je te juge. Hey, ça commence bien la soirée, Martineau. Bravo. Toute une façon d'accueillir un invité.
Tu dis, ça ne fait pas bien les cheveux.
Oui, mais tu n'es pas obligé de commencer avec ça. Il vient de mettre les pieds dans la maison déjà.
Je trouve ça beau. Je me présente, Guylaine.
Comment ça va, Guylaine? Ben oui, ça va bien.
Enchantée. On s'est jamais vu, nous autres, en personne.
Non, c'est bizarre.
Une première.
C'est un petit monde, pourtant.
Mais pourtant, vous avez tous les deux fait l'École nationale de l'humour, mais pas en même temps.
Non. En quelle année, toi?
92, je pense.
Ah.
J'ai lu ça.
92, ouais, je suis sorti en
94.
Ah, ben là, c'est pour ça.
Quelques années après.
Bien temps.
Ouais, c'est vraiment cool. Si vous saviez à quel point que ça me dérange pas des commentaires. Passer ma vie, moi, me faire... alors que ce soit sur mes cheveux ou quoi que ce soit, puis je trouve ça correct qu'il y a des gens qui trouvent ça beau ou moins beau. Moi, l'important, tu sais, j'ai jamais eu d'ambition de faire pousser les cheveux. J'ai jamais accordé d'attention à des cheveux dans la vie. Mais ma copine que j'ai en ce moment, elle dit, Colin, moi, j'aime ça, les cheveux, tout ça.
Hein?
Ouais, mais je l'endosse aussi. Si je serais vraiment pas bien, je le ferais pas. Tu sais, je suis quand même pas.
Mais non.
Je suis pas une carpette.
Je trouve ça délicat que Richard, tu commences avec ça. J'avais l'intention, à un moment donné, pendant la soirée, avec un petit verre, pendant le repas. Mais tu sais, lui, il commence, bing, bang. Ah ouais, Sophie, moi, ça, tes cheveux.
Deuxième chose, j'ai vu ma fille cadette, puis je dis « Ah, j'ai un enregistrement, notre podcast. » Elle dit « Ah oui, qui tu reçois? » Puis il dit comme Peter Maitland, puis il y a eu comme un silence. Puis elle m'a regardé, puis elle a fait une drôle de face. Ouais. Fait, j'ai dit « Quoi? » Elle dit « Il est pas macho, lui. Il est pas super macho. » Elle pense qu'il est un super gros macho.
Ouais, ben c'est ça.
Qu'est-ce qu'on lui dit pour...
Mais Colin, je sais pas, elle a peut-être été influencée, parce que ça fait longtemps que je reçois plus ça. Plus jeune, dans mes shows, malheureusement, quand on ressortait un numéro de mon spectacle, qui était pas dans le contexte.
Ouais.
Parce que dans toutes mes shows, moi, j'aimais ça faire des blagues pour agacer les filles. J'adore provoquer. Mais le numéro d'après, souvent, je désamorçais ce que j'avais amorcé. Je faisais un hommage aussi. J'avais un numéro qui c'était sur les femmes rondes. Que je lui faisais un hommage.
Ah,
ça,
ben, c'était
génial. C'est un numéro j'ai tellement eu plaisir à faire. Puis les femmes après le show, souvent des femmes un peu rondes qui venaient me voir, ça m'a tellement fait du bien. Parce que je dis que c'est trop compliqué de sortir avec des patards. puis des belles filles. C'est de l'ouvrage, tu sais. Puis je disais, mettons, tu décides qu'on on s'en va, on part. On dit on part, tu sais, spontanément, là.
Ouais.
Tu sais, hey, écoute, tu peux pas faire ça avec un pétard. Non, écoute, c'est lent, c'est lent. Tout est compliqué, tu sais. Tandis qu'une petite ronde, souvent, elle va dire, regarde, je me pogne un coton ouaté, deux Kit Kat, point parti, là. Tu sais,
mais
écoute.
Attends, pas de Kit Kat, moi.
Des femmes rondes par rapport à quoi? Par rapport à femmes carrées, femmes triangulaires?
Non, des femmes en chair. On va dire. Okay,
bon.
Des femmes
bon,
en chair.
Comme moi, là, comme moi.
La vraie dire, c'est... Il est en train de dire que les, excuse-moi, les femmes rondes, ça bien vraiment.
Non, moi, qu'elles mangent n'importe
quoi. Non, mais. Il aime non, le trop.
Il est un fouteur de merde.
Il est incroyable.
Je comprends ce qu'il veut dire, sauf que je trouve que ce qui est bien en ce moment, c'est que maintenant, on associe ronde avec belle. Parce que, tu sais, t'as dit, les belles sont les comme pétards, ça.
Ouais.
Parce que l'ancienne mentalité, c'était ça. C'est que les rondes étaient comme pas considérées comme belles. Puis un gars avait comme honte de sortir avec une grosse, on va le dire. Puis maintenant, on associe, puis moi, je milite pour ça, associer le mot belle et ronde ou grosse.
C'est super mince, qui est vraiment pas joli. Puis on était capable de voir une femme, tu sais, qui a plein de on va dire, de formes. Puis Caroline, d'avoir des traits, tu fais, waouh, elle est donc bien jolie. C'est, oui.
Mais tu dis, écoute, tu me l'as sorti, la joke ouais. qui dit, Peter, puis je suis parti à.
Les deux dus qui sont dus.
Comme ça, je lui fais le poème, puis à la fin, en voulant dire que sexuellement, il n'y a rien de mieux qu'une fille qui est en chair. Puis je dis, pis ça, la dernière phrase, ça fait, il n'y a rien comme une dodu qui est due. Écoute, c'est une ovation dans la salle.
Mais ça, c'est parce que c'est en train de dire que, étant donné qu'il baisse tellement peu les filles rondes, qu'il y a tellement peu de gars qui baissent avec elle, que quand finalement elle en a un dans son lit, elle est contente en Christine.
Moi, j'ai une question. À Sophie, j'ai une question. Sophie, est-ce que ton chum, il te met toujours des mots dans la bouche comme ça? Hey, parce que moi, j'ai jamais dit quelque chose qui ressemble à ça. Y a-tu quelqu'un qui a entendu ça?
La dodu qui est due.
Oui, mais t'as pas vu le numéro
qui est due.
Pour que les filles viennent me voir après show, font « Caroline, merci Peter, c'est cool, c'est le fun que t'aies pris la peine de faire un numéro là-dessus et il n'y a rien de méchant là-dedans. »
Mais quand tu dis que les dodus sont dus, moi j'ai plein d'expériences un peu contraires parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les filles en chair.
Ben oui.
Moi j'ai été la maîtresse de bien des gars. Ben oui. Mais qui voulait pas nécessairement s'afficher, tu sais, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas comme aujourd'hui.
Ouais.
Mais tu sais, il capotait sur mon corps là. Puis c'est pas parce que j'étais en manque ou c'est pas parce que j'étais due, tu sais, j'avais une vie sexuelle très active.
Est-ce que c'était indiscret de demander est-ce qu'il y avait beaucoup d'hommes noirs là-dedans?
Non, du tout.
Parce que souvent, moi j'ai des amis, j'ai des boys, des chums haïtiens là.
Ouais.
Écoute, puis ces maudits là, ils viennent, ils naissent avec un corps pratiquement de donné, c'est enrageant, ils naissent avec un six-pack là. Mais eux autres, là, pour eux autres, une belle femme, ben souvent, ça va être une femme très en chair.
Oui, mais c'est aussi parce que la femme africaine est plus dans les rondeurs, puis est plus dans tout ça.
Ben, oui, c'est culturel.
Donc,
mais sais-tu, c'est où la place où j'ai le plus pogné, et j'ai pogné de quoi pour vrai?
En Afrique.
Non, un moment donné, je suis allée en Croatie. J'étais à Dubrovnik. Je suis dans un bar, puis là, les Croates sont très belles. Les filles croates, c'est des grandes filles minces, des grands cheveux longs bruns. Fait que, tu sais, j'étais comme la petite toutoune dans la place, tu sais, qui buvait des shooters. Et comme j'étais l'exotique de la place, elle, c'était comme moi, le pétard de la place.
C'est très
drôle. Je capotais. Puis là, tous les gars croates venaient me voir. Écoute, c'était formidable. Parce que j'étais pas comme les gens de la place.
Et comment tu te sentais soudainement d'être le pétard de la place?
Ben, je voulais déménager là.
C'est ça.
J'ai dit, je reste ici. Non, mais sérieux, c'est juste, c'est culturel souvent. Là.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de gars qui aiment. Tu sais, c'est une question d'énergie aussi. Que tu sois grosse ou mince, si t'es pas bien dans ta peau, si t'as pas de charisme, c'est ça.
Regarde, j'aimerais ça trouver le pays. Moi, je suis le pétard de la place. C'est quoi ce pays-là, Christy? Il est où ce pays-là?
C'est peut-être la Croatie, toi aussi.
Ben,
c'est une brune capoterait sur toi.
Merci,
Peter. Il y a tout ce qu'il faut à la maison.
Les cheveux blancs, la bédaine, 57 ans. Puis là, j'arrive dans un pays, puis c'est moi le pétard.
Mais je veux juste revenir, parce que t'as dit quelque chose, Guylaine, tout à l'heure. T'as dit, moi, j'ai eu plein d'amants qui aimait, mais il l'aurait pas dit nécessairement. Donc, c'est la bonne vieille théorie des gars qui sortent, qui mettons, qui épousent une grande mince, mais leur désir sexuel, c'est avec une femme plus ronde. Il y en a plein de ça, là. C'est très
chiant. J'ai été un objet du désir.
Bon, on a le droit, tu sais. Toi, des gars qui couchent avec toi, puis ils ne veulent pas dire qu'ils ont couché avec toi, puis comme moi, mes sœurs sont tout le temps pleines, mais il y a bien des gens qui osent pas dire qu'ils sont venus voir mon show.
Chanteur français qui avait une toune magnifique,
oui,
où c'était je suis de sel, ça s'appelait.
Oui, Benabar?
Je suis de sel, Benabar.
C'est Benabar,
c'est ça.
Merci, Hugo.
Merci.
Que c'est vrai qu'elle est très belle.
Elle est super belle, mais c'est ça. C'est la fille qui dit, il veut tout baiser avec moi.
Ouais.
Mais ils veulent pas se montrer.
Mais heureusement, ça change parce que, tu sais, dans les 20 dernières années, c'est pas pareil. Ouais, moi, j'ai 50 ans, là. J'ai connu un gars, mettons, que, tu sais, il y avait vraiment une chimie entre nous deux, mais il n'y arrivait pas comme à
assumer.
Ben,
t'étais pas dans ses critères.
Ouais, hein. Puis tu sais, il y avait comme une job, je sais pas, tu sais, sa gang de travail.
C'est ça que j'allais dire, c'est le regard des autres.
Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire de la TV, il m'a reparlé.
Ah ben
parce que là, ça changeait la donne. Puis, ouais. Ben, ça change, par exemple. Parce que je suis mariée, j'ai eu plein de chats, mais reste que il y a 30 ans, c'était pas de même. Il y a 30 ans, c'était vraiment gênant pour un gars d'être au bras d'une. Tu sais, moi, il y a un gars qui m'a déjà dit, quand j'étais très jeune au primaire, à Verdun, c'est à la 4e avenue, j'étais assise dans les marches. Je revenais de l'école, je suis allée changer mon linge, pour le linge après. Il m'avait dit. Si tu perds 10 livres, je vais sortir avec toi.
Wow.
Puis j'avais dit, si tu lis 10 livres, je vais sortir avec toi.
Ah. Excellent!
Ouais. Bon, on va-tu? On va-tu?
Alors,
je suis gros.
Alors, tout le monde prend une assiette, puis on va porter tout le monde.
Et le vin qui a été choisi par nos amis de Méchant Raisin.
Patrick Désy,
c'est le Atlantis. C'est un vin grec. C'est sûr, oui, c'est un vin grec. Minéral, ça c'était bien à la mode. Minéral.
Oui, puis le grec aussi est à la mode.
Ouais.
Comme le yogourt.
Vraiment bon.
Il est très bon.
Vraiment bon.
Bon, ben parfait. Fait qu'on prend une petite pause, on s'en va là. Oh, t'es donc fin.
L'eau minérale est bien bonne.
C'est bon, le Perrier, ben c'est un 63. Un excellent millésime pour le Perrier.
Toi, t'as frôlé la mort en tabarnouche quand je t'avais interviewé pour le journal sur ma série sur les gens qui ont frôlé la mort. Ton histoire était une des histoires les plus terrifiantes. Ton accident d'avion, ça va donner des cauchemars pendant des jours. Là.
Un crash. Moi, je me suis fait frapper par un autre avion en vol. Puis là, mon appareil était plus en moyen de voler. Alors, je suis allé m'écraser dans la forêt.
Est-ce que tu mourrais pour toi? Quand?
Oui.
Oh, t'allais mourir. Là.
Oui, j'ai tout fait pour me sauver, pour sauver mes fesses. Là. J'ai vraiment tout fait là, en tant que pilote. Hyper calme, j'ai pris le temps. Mais je me souviens que quand j'ai tiré sur la manche pour ralentir l'avion, puis j'ai repoussé, parce que si je rentrais demain dans les arbres, j'étais mort.
Ouais.
Et je savais que des vieux pilotes m'avaient dit que si tu rentres de telle façon, tu te donnes une chance de vivre si t'es...
Wow.
Puis je me souviens, quand j'ai fait la manœuvre, là, je suis venu zen, là, mais vraiment zen, là. Puis j'ai fait « OK, c'est la fin ». Je suis venu en paix, puis la chose qui m'a passé par la tête, j'ai fait « Wow, j'ai donc bien une belle vie ». C'est vraiment la chose qui m'a...
Comment tu as pu être en paix devant la mort?
Ben,
n'avais pas le choix.
J'avais peut-être pas rien sur la conscience. C'est nous qui veulent pas partir, tu sais. Mais c'est ça. Puis une fois que. Ça a été particulier parce qu'après, quand j'ai réalisé que je n'étais même pas blessé rien, j'ai sorti de l'avion, là, je riais. Ben, je riais, j'étais assis, il mouille, c'est mauvais, tu sais. Puis je regarde, j'ai parti à courir, j'étais sûr que l'avion allait exploser. Alors, je suis monté, j'ai lancé une petite butte, puis je voyais mon avion pris dans les arbres. Puis quand, depuis que je suis petit, moi, c'est très drôle, mais. Tu sais, mais j'ai été élevé dans une famille très catholique, puis on faisait notre prière avant de se coucher. T'sais.
Ah ouais?
J'ai garde de sang vieillissant. T'sais. Pas une prière, là, je suis là à genoux à côté du nid, mais je te regarde. Moi, j'ai toujours prié pour les autres. Ah, hey, mon Dieu! Moi, c'est bon, tu sais. Puis quand je suis debout, tu peux aller te coucher, je m'occupe de toi. Puis ce soir-là, quand je voyais mon avion dans les airs, je suis parti à rire. J'ai depuis que je suis petit que je fais ma prière.
Ça sert à quelque chose.
C'est à soir que ça paye.
J'adore ça!
Ouais, c'était vraiment drôle. Ouais. Mais le plus dur de tout ça, c'est que pendant les semaines qui ont suivi, le fait là, que j'ai accepté, que j'ai fait « OK, wow, j'ai eu vraiment une belle vie », j'ai accepté que c'était la fin. Après ça, d'être vivant, on dirait que pendant quelques semaines, j'étais entre deux mondes.
Ouais.
Entre le gars qui avait accepté que c'était la fin, puis j'étais encore là. En tout cas, c'était bizarre.
Étais-tu déçu d'être encore en vie?
C'est en dedans que ça se passait. C'était bizarre. J'étais comme...
T'étais buzzé de presque mort. C'est comme un petit buzz. Parce que
je vous jure, là, c'est vraiment... J'étais bien. Il y a une espèce de sentiment...
Une inquiétude, une série.
Mais dans le fond, je sais que c'est niaiseux ce que je vais dire.
Arrête,
on devrait toujours être comme ça, dans cet état-là, de se dire... C'est n'importe quand tu prends ton auto, ça pourrait finir là. Tu pourrais. Je regarde le comédien Luke Perry, mort d'une crise cardiaque il y a 52 ans.
On a un CV.
ACV, ouais.
Oui, vrai, ouais, ACV, ouais. T'as raison. Parlant d'ACV, d'ailleurs, t'as chum José, là.
Mais c'est épouvantable. Je reviens à la fille qui me demandait c'est quoi qui est après la mort.
Oui.
Après ça, tu sais. Donc, je ne vous raconterai pas tout ce que j'ai raconté, mais vite comme ça, après ça, comment qu'elle m'a dit ça? Écoute, c'est spécial. Elle dit, mais t'as-tu peur de mourir? Elle revenait en disant, mais t'as-tu peur de mourir? Puis ça, j'ai trouvé ça tellement pertinent parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi dans les dernières années. Puis la conclusion de ce travail-là, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis vraiment bien que moi-même. Je suis vraiment, je me penche. Tu sais, l'espèce de X qu'on dit tout le temps, t'es sur ton X, là. Ouais. Moi, je constate que je suis rendu là. Il y a des journées que c'est plus dur, c'est plus difficile. Mais dans la vie, comme là, ce que je fais présentement, je suis pas en train de me dire que je pourrais faire d'autres choses. Mm. Puis quand je me lève le matin, je prends mon café, puis je te regarde à 8h30, ou que je lis mon petit livre, puis je passe à travers l'actualité, je suis pas en train de me dire que je pourrais être ailleurs.
Est-ce que les gens sont jaloux parce que tu gagnes bien ta vie?
Ça, je sais pas. Je m'occupe pas beaucoup de ce que les gens pensent. Je sais pas, ça m'intéresse pas beaucoup. Je sais, je comprends, je connais un peu. Je sais que les Québécois, vis-à-vis les sous, là, sont très frileux. Hey, mon Dieu, dis pas ça. Puis que,
Donc, toi, le fait que tu as une différence avec ton bras et que quand tu étais petit, les gens te percevaient comme étant différent, tu t'es fait une carapace qui fait qu'aujourd'hui, tu te calises de ce que les gens pensent de toi.
J'imagine ça sert. Parce que tu sais, on appelle ça des blessures, qu'on s'est protégé, puis ça a donné des armures. Aujourd'hui, je l'ai enlevé, mon armure, mais... Ces fameuses armures-là, ils servent aussi à des choses. T'sais, moi, je sais que dans le métier qu'on fait au début, là, quand j'avais des critiques ou des gens qui étaient durs avec moi, j'étais imperméable à ça. Ça
me... Ben parce que ce que tu as vécu quand tu étais jeune avec ton bras, j'ai
tellement entendu,
t'as donné une carapace.
Ouais.
Puis tu sais, je pense que bébé, toi, t'étais-tu ronde quand t'étais jeune?
Oui, bébé ronde.
Toi aussi, il fallait que tu fasses une carapace.
Oui, mais je pense que peut-être que comme Peter, le fait d'être drôle, le fait d'être, tu sais, d'être vive d'esprit, d'être vite sur mes patins, ça faisait en sorte que les gens ne m'attaquaient pas vraiment.
Mais moi, je
que les gens
plus jeune,
m'aimaient, tu sais.
C'était pas mon sens de l'humour qui me sortait, c'était toujours. Plus mes points. Plus que...
Moi aussi. Que tu te battais, toi.
Ouais.
Moi, si ma vie était à refaire, ça serait de tout faire revivre les petits oiseaux que j'ai tués avec ma carabine à plomb, puis toutes les gueules que j'ai pétées.
T'as vraiment pété des... Attends deux secondes, juste deux secondes. T'as vraiment... T'étais quoi? Tu te battais dans la ruelle avec les gens?
Mais moi, je suis pas quelqu'un qui arrivait pour aller écœurer les gens. Là. Jamais. C'est que de par ma... Comment je te dirais ça? Écoute, tu sais, aujourd'hui, les gens, souvent, vont me rencontrer, ils vont dire, « Hey, toi, Pete, t'as pas besoin de parler pour on est crampé. » Mais dans le temps, moi, dans Beauce, c'est le monde faisait, « Hey, toi, t'as vraiment une face à fait ça dedans. » Le même sourire qui t'amène à te faire sourire, ben, ce sourire-là, c'est un galastie. Tu m'as regardé, puis je souriais. Tu sais, moi, je souriais toujours.
Ah
ouais. Quand je regardais un gars, probablement pas bien dans sa peau, ou qu'il y avait beaucoup de choses à. Tu sais, les hormones dans le tapis quand t'as 16, 17, 18
ans. Ça lui provoquait,
quoi. Ben oui, il faisait craquer, tu me cherches-tu? Voyons, là. Puis dans une petite communauté aussi, ce qui est capoté, c'est que si t'as le malheur, il y en a un qui vient pour te prendre, puis qui est vraiment considéré comme quelqu'un qui est un bon bagarreur ou un gros cognard, mais tu le vires dans ses shorts. Tu fous une raclée. Ben là, t'as un autre d'une autre ville, puis là, tu t'es rendu loin d'en bas, t'es rendu à Saint-Jean, t'es rendu à Québec. OK, il y a des gens qui descendaient par chez nous.
Pour t'essayer.
Ils savaient pas qui j'étais. Ils voulaient savoir c'est qui avait battu tel gars qui voulait se pogner avec moi. Je te dis, là, c'est
hallucinant,
c'est...
Ah, ça.
Ah oui, c'est quasiment des gladiateurs.
Écoute, il y a un film...
Le gladiateur.
Il y a un film western qui s'appelle The Gunslinger, je crois. C'est Grégory Peck. Tout le monde sait que c'est un grand tireur, c'est un excellent tireur. Tout le monde veut s'essayer avec lui. Il veut rien qu'aller prendre un verre dans un bar, dans un saloon.
Tranquille.
Il est jamais tranquille. Il y a tout le temps quelqu'un qui arrive dans le saloon puis qui veut s'essayer avec lui.
Il est tout le temps prêt de tuer quelqu'un.
Tout le temps.
C'est fatiguant. Ben, moi, c'est un peu ça. Puis moi, j'étais pas plein intelligent. Tu sais, quelqu'un que t'as jamais vu, puis là, quelqu'un me voit, dit, ah, il y a un gars qui est ici, puis nanana, il vient de telle place, puis il aimerait ça, tu sors dehors. J'y allais.
Ouais, mais c'était quoi ton plaisir, Peter?
Ben, le plaisir, j'en parle ça aussi dans le livre. C'est sûr qu'il y a une partie de ça Moi, quand j'étais petit, à un moment donné, quand j'étais arrivé à la maison, puis j'ai dit, les enfants m'ont traité d'infirme. Mmh. Tu sais, on vient d'une génération de papa que c'est pas, tu sais, aujourd'hui, là, les gens s'assoient, puis tout ça. Mais moi, mon père fait, écoute, sa manière de protéger son fils, c'est de dire, je vais te montrer à te battre. Tu vas pouvoir te défendre.
Ouais. Mais c'est quoi?
C'est comme ça.
C'est pas bête non plus.
Mais j'haïs pas
des
ça.
Des fois, c'est pas, j'haïs pas ça, moi non plus. C'est en
ben, plutôt que de te victimiser.
Les gens qui se font, des fois, écœurer à l'école, puis. Tu sais, ils changent d'école, puis ils se font quand même écœurer. On dirait qu'ils ont ça, un enfant, c'est écœuré moins. On dirait, tu sais, c'est comme. Puis à un moment donné, tu as le goût de leur dire, ben, tabarnouche, défends-toi. Toi.
Ouais, c'est ça. Défends-toi. Moi, là-dessus, là, jamais je vais juger mon père. C'est juste que, à un moment donné, moi, j'ai pris peut-être ça au sérieux, un peu drôle.
Là, tu
pris ben, c'est parce que je t'ai pris d'un engrenage. Là.
Ouais.
Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, la fois que tu te défends ou tu as défendu un de tes amis, à la limite, tu peux justifier ça. Mais quand c'est rendu, quelqu'un rentre dans un bar et qu'il fait juste venir te pogner parce que tu as battu un autre qui était considéré comme.
Mais donc, ça, toi, ça... tu cassais des gueules, mais jamais quelqu'un te cassait la gueule parce que tu te défendais tellement bien?
Ouais, j'étais quand même assez.
Assez toxon.
Michel Barrette, c'est ça, je l'ai rencontré cet après-midi puis il a dit. Je vois Peter ce soir, il dit, lui, là, il dit, lui, c'est se battre en maudit. Il dit, lui, là,
il dit vraiment. Il a dit, il y en a deux. Il y a Peter.
Il dit, il y en a deux dans le milieu artistique qui savent vraiment se battre, puis se défendre, puis il faut pas que tu te battes contre eux autres, là. C'est Peter, puis c'est Mario Tessier.
Ah ouais, ben Mario a fait l'armée, hein. Mario, ouais, c'est ça. Quand même assez rare. Puis c'est très haut, Mario travaille avec moi parce qu'il travaille son nouveau one-man show. Puis il fait mes premières parties censées pour promouvoir son show. Moi, je trouve ça tellement le fun. Écoute, on était ensemble à l'École nationale. Et quand tu dis, là, il n'y a pas d'égo là-dedans. Il n'y a pas d'affaire que Mario Tessier vient faire la première partie de Peter McClure. C'est pas ça. Il sort un nouveau show. Moi, je le présente.
Il vient tester le matériel aussi.
Exactement. Moi, je le présente aux gens. J'ai un cadeau pour vous autres à soir. Un Nature qui travaille sur un nouveau one-man show. Ça vient nous en montrer un petit bout. Écoute, les gens l'apprécient. On est à Albert Rousseau, en fait, ça ne passait à Québec. Je trouve ça tellement cool.
C'est peut-être un one-woman show?
Non, moi, j'ai jamais
ça
fait de... Ben, à vrai dire, ça ne m'a jamais tenté parce que quand je suis sortie de l'école de l'humour, moi, j'ai été recrutée bien vite par Radio-Canada. Je suis devenue scripteur. Puis après ça, j'ai fait de la télévision. Fait que j'ai un parcours qui est assez singulier. C'est-à-dire que j'ai fait de la chronique pendant très longtemps. De la radio aussi. À vrai dire, c'est pas tant le milieu de l'humour qui me tentait à se mettre. Si aujourd'hui je sortais de l'école à 25 ans, la gang d'humour d'aujourd'hui me tente beaucoup. Moi, j'aime leur. J'aime
t'as le, Catherine son Levac, funk, ben moi, puis tout ça, tu serais là-dedans.
Exact. Puis, tu sais, Arnaud Soli, puis toute cette gang-là, moi, tu sais, je les côtoie à la radio, puis j'aime. Moi, j'aimais pas le stand-up. C'est juste ça. Moi, je faisais des personnages, j'inventais des histoires. Tu sais, j'étais très bonne à l'école de l'humour.
T'aurais pu vraiment foncer fort dans tout ce qui s'appelle les trucs sur le web, là, je pense.
Oui, c'est ça. S'il y avait eu le web quand moi, je sortais de l'école,
ils ont des outils qu'on n'avait pas. Là.
Ben oui, tu sais, me déguiser, puis faire des affaires, aller au Dolorama, puis tu sais, me ramasser des costumes, puis tout ça. Mais à l'époque, c'était du stand-up. C'était ça. Tu sais, moi, j'étais allée à l'école avec Martin Matt. Avec Laurent Paquin, avec Mike Ward, avec les Chicken Swell, avec Martin Perizzolo. C'était une grosse année.
Ben, c'est parce que tu n'avais pas de modèle fille comme fille?
Non! À vrai dire, moi, être une fille ou pas, ça me dérangeait pas. C'est juste que l'industrie, c'était plus limité pour nous autres à cette époque-là. J'aime pas dire ça. Tu sais, quelqu'un qui est drôle, c'est quelqu'un qui est drôle. Tu sais, pour moi, une fille ou un gars. C'est juste qu'à ce moment-là, la demande... C'était très stand-up masculin. C'était comme ça, tu sais.
On entend. Non, puis je suis contente. Mais elle a tellement raison dans ce qu'elle dit. Je me souviens dans le temps, il y en a qui faisaient, ben oui, elle. Elle était jugée avant d'avoir fait quoi que ce soit. Pour eux, tu vois pas ça, tu vois. Il n'y a même plus question de sexe. C'est vraiment, elle est malade. Elle est vraiment conne, elle est folle. Tu sais, tu comprends
ça. Mais ça, c'est nouveau, ça.
Ben oui, c'est nouveau. C'est à quoi ça
sert? Moi, je les trouve, là. Elle est chanceuse, parce que elle, on connaisse pas cette époque-là. Fait que, tu sais, des fois, je leur dis, puis tu sais, je veux pas sonner comme la radoteuse qui disait, moi, dans mon temps, puis oui,
non,
j'aurais
pu. Non, c'est ça, c'était pas rare, mais c'est vrai,
c'était quand même ça à l'époque. C'était plus stand-up, c'était plus. Fait que moi, je me suis redirigée.
Oui, mais en même temps, le métier est le même. À la base, tu as envie de faire rire puis de communiquer quelque chose.
Oui, mais tu sais.
Que tu le fasses comme une chronique.
Exact.
Ou que tu sois à la fosse au lion. Que tu le fasses à la radio avec Véro, à la télé avec Marina.
À vrai dire, c'est juste le public. C'est que moi, je suis engagée par des organismes, des associations. Tu sais, puis je gagne bien ma vie en faisant des conférences.
Tes conférences sont-tu humoristiques?
Ben oui, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ne savent pas, eux autres, vraiment. Ils me connaissent, Ben là, ils rient quasiment pendant une heure de temps. Ben, là, ils s'en pas. Vont. Puis, t'sais...
Et pourtant, tu parles de sujets sérieux, de ouais. la confiance en soi, la résilience.
La différence, etc. Fait que,
mais c'est ça qui est le fun quand tu as un background. Mais ça paraît. C'est pas une fille qui essaie d'être drôle. Tu comprends-tu? Quand ça fait partie de toi, fait que j'imagine dans une conférence, c'est
mais c'est ça qui est le fun. C'est génial, ils ne s'attendent pas nécessairement à ça. Fait que
mais tu sais, même là, tu as deux enfants autistes. Tu es la seule personne qui est capable. Avec qui je suis capable de parler et qui me fait rire en parlant de l'autisme. Pour moi, je pense autisme, sérieusement.
C'est un défi en soi, là.
Non, mais tu sais, pour moi, c'est comme, c'est dramatique. J'aurais le goût de partir à pleurer je pense à ton quotidien. Puis on comprend qu'il y a une partie, c'est t'en ris pour pas en pleurer. Puis t'en ris parce qu'en même temps, il y a des moments loufoques, là. Tu sais, il y a des affaires absolument qui arrivent.
Mais moi, je suis chanceuse. Parce que comme j'ai une personnalité qui est déjà comme. Je suis comme bon genre, moi. Je suis une bonne pâte. T'sais, fait que avec les enfants, ça se présente aussi comme ça.
Ah, c'est
mais
cool.
C'est tout un. Et des fois, là, il arrive des affaires chez nous, là. Écoute, je ris là, de bon cœur. Je suis comme ben voyons donc. J'aurais voulu l'inventer et j'aurais pas pensé à ça.
Puis une autre personne qui est probablement.
Mais oui.
Oui, une autre personne vit la même situation, mais qui se victimise.
Non, c'est sûr.
Ne pourrait même pas voir le beau portrait que tu es en train de faire de quelque chose qui est.
Mais en même temps.
Mais toi, c'est très spécial parce que tu as écrit ton livre Deux garçons à la mer.
Ouais.
Et dans ce livre-là, tu as écrit une phrase qui était je rêve d'une maison chaleureuse et je sais que quelqu'un de généreux va lire ces lignes et va m'aider. Véronique Cloutier a lu le livre.
Ben ouais.
Elle a contacté, oui, histoire vraie, là. Elle a contacté Guylaine.
Ah ouais.
Ça a donné la fondation Louis et Véro, les maisons et tout ça. Mais tu sais, toi, tu es un petit peu une sorcière quand même.
Ouais.
T'es un peu une sorcière parce que écrire ce livre-là, tu savais que tu provoquais quelque chose. C'est vraiment particulier, là.
Ben, à vrai dire, tu le sais, quand on écrit un livre, je pense qu'on s'imagine pas la portée du livre. Sauf que quand j'ai commencé à écrire, j'avais un peu pas le syndrome de l'imposteur, mais comme j'étais pas écrivaine ou auteur
Salon du livre. Qu'est-ce que je fais là, moi?
on vit tout ça, puis on est des personnes connues. Ah, tu sais, des fois, les auteurs, c'est une fratrie, donc. Ouais. Mais il y a une femme qui était venue me voir à mon kiosque, puis elle m'a dit, Guylaine, tous les livres trouvent un cœur qui en a besoin.
Que c'est bien dit.
Ça, là,
c'est
bon. Fait,
j'adore ça.
Après ça, j'ai écrit des livres. Je me disais, ça va faire du bien à quelqu'un. Ben, à vrai dire, je suis chanceuse parce que mon mari, qui est un gars... qui n'est pas le père de mes enfants, qui... Ben moi, je fais des retraites d'écriture. Mais à vrai dire, c'est un prétexte pour sacrer mon camp. Là.
Comme là, lundi...
C'est là ton moment tout seul.
Ben, mardi, je m'en vais en retraite d'écriture. Donc, je passe 5 jours tout seul.
Ton chum doit se faire dire, « Ah, il est tellement un saint homme d'avoir accepté... »
Oui, il se fait dire ça.
D'avoir accepté une femme qui a deux enfants handicapés, etc., tu sais.
Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, je le pense aussi, même si, tu sais, c'est pas un gars parfait, c'est pas... Sauf que oui, tu sais, lui, il a pas d'enfant à lui, fait que c'est sûr que de me marier avec les...
Ouais.
Puis de vivre avec mes garçons...
Il a acheté le concept.
Il a acheté le
T'as pas le trio.
Il s'est acheté le trio au complet, lui.
Le frite puis le coke.
Ah, je sais pas ce qui est quoi, là, mais je dis de lui que c'est un homme qui a eu peur de rien, même pas de mes enfants. Parce que j'en ai eu des chums avant.
Puis ils ont fliqué.
Ils partaient.
Ben, tu sais, c'était peurant, là. Tu sais, t'as un enfant de 9 ans qui est pas propre. Tu sais, c'est compliqué, là, ce qu'on vit, nous autres, au quotidien. Fait que lui, il a trouvé ça. Il a pas d'enfant à lui.
T'as eu des chums qui...
Oui.
Est-ce que ces gars-là ont eu le courage de dire moi, je suis désolée, Guylaine, je t'aime.
Oui, c'est trop pour moi. Puis je les remercie de ça. Puis oui, il y a eu deux gars.
Au moins, ils ont eu la franchise de le dire.
Ben moi, avant qu'ils le disent, je leur disais, tu sais, si c'est trop pour toi, crains pas que je comprends. Hein?
Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, quelque part, je suis désolée, je te pose une question, il n'y a pas de buffer, là. Mes enfants vont m'empêcher d'être heureux.
Non, mais je me suis dit, je vais être toute seule, par exemple.
Je vais être toute seule.
Mais je me suis dit, ben, peut-être que je vais pas partager ma vie au quotidien avec quelqu'un.
Ouais.
Peut-être que je vais voir des gars avoir un chum qui ne va pas habiter avec nous. Mais être heureuse, non, parce que moi, j'ai une nature heureuse.
Mais oui.
Je suis faite de même. Mais depuis que j'ai mes enfants, je suis encore plus heureuse. Parce qu'eux autres, là, ils sont là, il y a quelque chose d'eux qui connecte avec moi. C'est l'authenticité que moi, j'ai dans mon cœur, mais eux ont cette même authenticité-là dans leur cœur.
Mais il y a des gens qui nous écoutent, qui vont dire, elle se raconte cette histoire-là pour rendre la chose plus supportable.
Elle se fait la crève.
Non. Elle se raconte ça pour rendre la chose plus supportable.
Non, mais à vrai dire, je voudrais l'inventer, que je ne pourrais pas inventer ça, je pense.
Mais tu vas faire semblant.
Mais
tu allais demander quelque chose?
C'est-tu indiscret de demander le papa, lui?
Le père de mes enfants, lui, est aussi autiste. Il est Asperger.
Okay.
Puis on a comme découvert ça dans le processus de...
Asperger, c'est des formes différentes.
C'est un super bon gars. Et vraiment, c'est juste que c'est plus compliqué. La garde partagée, pour nous autres, c'est pas possible. T'sais, les enfants, c'est trop de changements, tout ça. Puis là, Léo, il a eu 18 ans, mon plus vieux. Fait qu'il veut voir papa plus souvent. Puis je comprends ça. Puis il ressemble à son père comme deux gouttes d'eau. Fait que, tu sais, je suis pas là pour mettre un break là-dessus. Mais non, mais tu sais, des fois, je fais des conférences, puis il y a des parents qui sont pas prêts à entendre ce que je dis. Parce que là, je fais des jokes.
Mais oui.
Puis, tu sais, c'est drôle, mais tu sais, je dis jamais que c'est facile. À vrai dire, ça vient les chercher dans leur déni ou leur, tu sais, eux, ce qu'ils vivent. Mais là, je dis, moi, là, je vis ça. Chacun le vit à sa façon.
Tu peux pas vivre ta vie et vivre la vie des
200 personnes. Ils ont une réalité qu'ils n'ont pas été capables de voir peut-être en même temps. Ils ne sont pas rendus à la même place.
Ou ils ne seront peut-être jamais.
Oui, mais c'est ça.
C'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon.
De concevoir l'autre, ben oui, c'est ça.
Moi, quand j'étais jeune, j'étais grosse. OK, gars, il n'y a pas de demi-mesure. Là. J'étais un petit baril. J'étais plus grosse que maintenant, pour vrai. Parce que j'avais pas de forme, rien.
Un petit pot de bine.
J'étais un petit pot de bine. Avec un petit peu de l'or sur le top. Tu comprends, c'est le meilleur. Mais tu sais, j'étais là, mais voyons donc, c'est un corps formidable. Et je faisais du BMX, moi je me sentais puissante. J'étais forte physiquement.
Ça me t'a descendu
un coup. Puissante, tu comprends? Au glissade d'eau, c'était qui descendait le plus vite?
Check-moi bien. Pensez-vous, je m'en viens.
Je voyais ça déjà comme... un avantage. Je me faisais pas des accrocs, là. Tu sais, c'était dans ma tête, je me disais, aïe, je suis hot, je suis donc chanceuse d'être moi. Puis ça, je peux pas dire pourquoi je pense de même, je sais pas d'où ça vient.
Mais non, mais
je peux pas donner le secret à personne.
Cette phrase-là, il faudrait la faire inscrire en lettres d'or dans toutes les maisons, dans toutes les écoles. Je suis donc ben hot d'être qui je suis.
Ouais.
Mais tu te rends compte qu'il y a comme 1% de la population qui pense ça.
C'est sûr.
Tu sais, je suis donc ben hot, toi, avec ton bras, je veux dire, c'est comme... C'est ça que vous avez aussi en commun, c'est d'avoir dit...
Moi, c'est une des plus belles histoires. À fin d'adolescence, on m'a offert un chirurgien plastique de mettre ma main droite comme ma main gauche, puis j'ai dit non.
Mais qui t'a offert ça? Pas tes parents, hein?
Non, mais j'avais été opéré plus jeune, puis il m'avait demandé de revenir plus tard, vers la fin de l'adolescence, parce qu'une fois que ta croissance a comme diminué, pour voir, puis il a vraiment fait, je serais capable de faire quelque chose, ça serait pratiquement similaire. Il était vraiment
sérieux. Et t'as dit non.
Et j'ai vraiment fait non.
Et pourquoi t'as dit non, Peter?
Je ne savais pas à l'époque, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux facettes de ma personnalité. Un côté très sensible, très vulnérable, puis l'autre côté très, très protecteur, très, très fort.
Peut-être là, les gens ne le voient pas parce qu'on est à la radio. Ouais. Tu parles de ta main gauche qui est plus petite
et disant le côté. C'est deux traits de mon caractère qui sont probablement les plus
présents. Mais tu disais, ça fait partie de moi et j'ai pas le goût d'enlever ça.
C'est comme s'il m'enlevait mon identité.
Ouais, c'est ça.
Puis les femmes que j'ai eues dans ma vie ou que j'étais dans des relations les plus proches d'être saines, parce que la façon que je t'ai fait, je t'ai bâti pour pas que ça fonctionne mes relations. Exemple, tu m'aurais dit, tu sais, ça va bien, tu sais, que oui, mais tu aurais voulu, genre, ouvrir, puis elle m'a demandé, hey, l'année prochaine, qu'est-ce que tu penses?
Okay,
des enfants. Moi, c'est terminé. Mmh. Tout ce qui s'approchait d'émotion, c'était.
Mais,
je m'envole, c'est fini.
Excuse-moi, je te pose une question, puis après ça, je vais te dire ce que nous a dit tantôt Guylaine avant que tu arrives. Mais, question. Là, tu la caches pas ta main.
Non.
On est là, on soupe ensemble, tu la caches pas. Dans tes shows, tu la caches. Tu la mets dans ta poche.
Pourquoi?
Pourquoi?
Parce que, premièrement, je suis tout seul là, puis tout le monde est dans la salle. Puis c'est con, mais dans le monde dans lequel on vit, les gens se mettent à fixer la main. Puis moi, là, je suis
sérieux?
Moi, je suis comme
moi,
ça.
Moi, je regarde pas, là. T'es là, c'est devant moi.
Non, je sais, mais sur la scène. Moi, quand je suis sur la scène, moi, là, des fois, à un moment donné, là, tu regardes, tu comptes de quoi aux gens, là, puis ton regard scanne les gens, là. Tes voix, là, ils n'en regardent pas du tout tes yeux, ils veulent voir ta main.
Okay.
C'est particulier. Puis, c'est pas parce que je suis gêné, mais à un moment donné, plutôt que avoir un paquet de gens qui sont en train de focusser sur ça au lieu de d'écouter ce que je suis en train de dire puis pas réagir aux bonnes places parce qu'ils n'ont pas suivi du tout. J'ai réglé ça assez rapidement. Parce que je suis vraiment pas gêné
dans ma main. Mais tu sais quoi, puis toi, je vais te dire quelque chose.
Ouais.
Je vais te dire quelque chose. Elle est belle, ta main.
Oui, elle est cute.
Elle est pas juste
fais
cute.
Je fais des petits fuck you. Ah! Non, c'est drôle, en crise.
Elle est belle, puis c'est dommage parce qu'il y avait un photographe tout à l'heure, puis le photographe est parti.
Mais ça, tu vois, là, c'est la zone où...
Non, là, t'aurais pas aimé.
Non,
non, mais c'est correct. Mais je te le dis. Non, mais
c'est génial.
Je te le dis sincèrement. Tu lances
ça, là, puis gars, ça a fait un petit quelque chose qui a fait...
Donc, tu dis, je suis super bien dans ma peau, je m'assume. Mais je t'envoie ça, puis ça vient te chercher.
Ouais, c'est ma limite avec ça. Mais tu sais, encore, moi, j'irais quelque part, je suis pas gêné de donner la main avec la main droite.
Ouais. Mais il y a des gens qui sont gênés de la recevoir.
Sûrement. Ben oui, des gens qui connaissent, parce que j'en ai tellement parlé dans mes shows. Souvent, des gens, spontanément, quand ils viennent me voir, ils vont me tendre la main gauche, puis tout ça, là.
Fait que Guylaine, tantôt, avant que tu arrives, je disais, est-ce que tu connais Peter? Non, je le connais pas. C'est quoi, tu des préjugés? C'est quoi tu penses de lui? Elle dit.
J'ai dit, je suis certaine que Peter, c'est un gars très sensible.
Ben,
la première chose avant, à la fin, j'ai dit.
Avant, là, tu m'aurais dit ça, c'était la chose que je détestais le plus dans la vie. Parce que probablement, c'était vrai. T'sais.
C'est ça, c'est la vérité.
Parce que moi, sensible égale, je suis vulnérable.
Faible.
Sensible égale, moi, t'as dit marre des émotions, puis moi, je me tiens loin de ça, les émotions. Je peux pas. Je vais me faire.
Donc, l'élément déclencheur, ça a été ton accident ou?
Non, c'est vraiment. Ma vie revenait toujours au même endroit pendant des années, j'appelais mon fameux jour de la marmotte. Puis, à un moment donné, tu fais pourquoi chaque relation, même avec des relations, avec des super de bonnes filles, j'ai eu des relations vraiment bien ordinaires. Mais j'ai eu des belles personnes.
Ça finissait par finir.
Toujours. C'est toujours pareil. Et ça finissait toujours pareil.
Puis les filles te disaient, t'as pas assez d'émotions.
Je sais pas t'es qui. Ils finissaient en disant, Peter, je pense que tu m'as jamais aimé, tu m'aimes pas, puis tu m'aimeras probablement pas. Je faisais comme, on prend-tu un break ou, hey, moi, la porte est ouverte. Moi, on était mieux de. Puis j'étais zéro brave en plus. Tu sais, là, quand j'étais plus capable, j'ai tout fait parce que là, la personne voulait que je m'ouvre, puis je voulais pas, là. Au lieu de simplement dire, gars, on arrête ça là, je suis pas capable. Tu sais, je devenais juste plat et isolé.
Et fait pourquoi que, avec NG, c'est différent?
Zéro brave. Ben, je l'ai connu après le travail que j'ai fait là.
Donc, l'avais rencontré, cette même fille-là.
J'aurais juste voulu
coucher avec.
T'aurais juste voulu coucher avec.
Tu allais voir un psy.
Ben, c'est ça, le plus. Encore là, c'est mon Christy livre, c'est ça l'histoire. Parce que, tu sais, quand t'arrives à un moment de ta vie, ça n'a pas de bon sens, je reviens toujours là, c'est quoi le problème? Parce que c'est toutes des claques au visage. Le coup de pelle, j'ai pensé que c'était une peine d'amour, ce coup. Avec une fille que j'avais jamais été en amour, c'est bien particulier.
Attends, t'es en train de me dire une peine d'amour, c'est une coup de pelle, puis t'as failli mourir en avion, puis c'est une claque.
Ouais.
Moi, je dirais...
C'est
moins grave qu'une peine d'amour.
Ouais.
Très bon, Richard.
Ouais, je raconte très bien dans mon truc. J'étais une fille qui a été ma maîtresse pendant des années, puis un jour... Écoute, c'est elle me demande toujours qu'on soit en relation. Pourquoi tu sors avec d'autres femmes? Puis crime, tu m'as jamais donné ma chance. Puis à un moment donné, un jour, écoute, là, j'ai eu mon accident d'avion. Je suis brûlé, je suis en tournée, je suis en radio, je fais 10 000 affaires. Puis même que je me questionne sur la vie en disant, je cours après quoi? C'est quoi je veux? Tu sais, puis je suis donc ben pas heureux malgré tout, là. Parce que ma vie était d'emplir des vides toujours par la consommation, acheter un 4 roues, une moto, un bateau. J'étais beaucoup là-dedans, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, cette fille-là, elle dit, pourquoi tu te lances pas? Puis, j'ai fait, OK, gars, on va l'essayer. Puis, pendant 8 ans, moi, cette fille-là, je n'avais pas peur, parce que je savais que je l'ai jamais aimée. Puis, elle n'était pas dangereuse. Puis, avec elle, je pouvais compter un peu ma vie. Parce que c'était pas ma blonde. Fait qu'elle me connaissait un peu, beaucoup trop.
Je risquais rien.
Mais là, man, le fait de vouloir embarquer en relation avec elle, je me suis comme si je m'étais tout déshabillé, tout nu devant une fille qui m'a pas regardé. Là.
Ah, t'as quitté?
Oh, mais c'est plus que ça, là. Elle m'a fait du mal. Là. C'est vraiment, je me suis mis vulnérable devant une personne. Puis
elle a utilisé...
Puis j'avais fait tellement de mal que probablement qu'elle s'est vengée. Puis c'est correct, là. Mais moi, à ce moment-là, comme je te dis, l'accumulation, accident, travail, brûlé, fini. Écoute, j'ai vu ça comme si mon univers s'était écroulé. Puis dans le fond, à un moment donné, j'ai fait, je suis en peine d'amour. Là, je suis parti, puis moi, j'étais un gars orgueilleux, pareil, dans tout ça. Puis j'ai voulu comprendre où je m'en allais avec ça, puis je me suis rendu compte que la peine d'amour, elle existait, mais c'était avec moi.
J'ai réalisé que c'était... La peine d'amour de toi-même. Donc, d'où moi. Le titre de
cette fille-là, dans le fond, c'était mon miroir. Elle venait de me je venais de me voir pour la première fois de ma vie.
Et l'homme, est... l'homme de ma vie, c'est tombé en amour avec toi.
Ben, j'étais recherché probablement ce que je serais devenu si j'avais pas eu autant de systèmes de protection puis de toutes les blessures qu'on a. Moi, je vois ça comme des couches. Maintenant, ça vient gros puis ça vient pesant à porter.
Tu sens que, mais tu comprends-tu qu'il y a une génération d'hommes qui t'écouterait parler puis dirait, c'est une momone.
Ouais, mais
c'est. Non, mais tu sais, vraiment là.
Mais c'est carrément
une
ça.
Une génération d'hommes là, tu sais les.
Hey, je
les gens qui souhaitent de ce monde, là, les strong silent types. Tout le temps, tu vas puis ils diraient.
Hey, mais je me plains pas. Moi, je suis en train d'expliquer à quel point j'ai jamais été bien de main dans ma vie.
Ouais.
Puis ces gens-là, mais... encore aujourd'hui, même avec le beau travail que j'ai fait, qui voudraient me juger, je suis encore capable de péter la gueule.
Il reste le plus fort, hein?
J'ai envie de me montrer comment je me sens aujourd'hui, tout simplement. J'ai pas envie de mentir. J'ai compté de la merde toute ma vie et à la personne la plus importante qui est moi, je me comptais que de la merde. Le travail que j'ai fait, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. J'ai commencé par m'écrire des questions sur la vie en général. Puis je répondais, puis j'enlevais réponse. J'attendais quelques jours, puis je me reposais les mêmes questions. Mais un calice, je répondais pas à la même réponse. Puis, jusqu'à temps, à un moment donné, tu fais, OK, mais je suis tout seul. Je suis pas avec un psychologue. Je me mets à moi, là. Imagines-tu? Puis, à un moment donné, tu te rends assez loin de dire, c'est quoi la question? Est-ce que je m'aime? Puis, un matin, là, tu dis, là, t'arrêtes de te débattre, là, puis de dire, ouais, mais oui, mais je m'aime-tu? Puis là, tu rentres dans toi, là, puis tu l'écris. Non. Je m'aime pas. Tabarnak, il fait noir, ça, ce matin-là. Mais au moins, tu étais à la bonne place. C'est vrai ce que tu viens d'écrire.
À partir de là, tu n'as plus qu'à remonter.
Mais là, après ça, chacune des questions, tu dis la vérité. Ça, là, c'est le plus beau cadeau.
Un beau cadeau?
Ah, c'est fou. Mm. C'est vraiment malade. Mais... chacune des questions, une par une.
Mais c'est drôle parce que ce que tu disais de cette rencontre-là avec toi-même, tu sais, moi, vraiment, mes enfants ont eu cet effet thérapeutique-là.
J'imagine.
Tu sais, quand ils sont arrivés dans ma vie, moi, avec... j'avais le sac à dos facile. T'sais, quand ça marchait pas ou quand... Ah. Moi, je partais. Je m'attachais pas. Pour toutes sortes de raisons, mais une relation à long terme, ça me tentait pas. Et moi, je tombais enceinte en prenant la pilule au Nunavut. Puis là, j'ai dit ça, là, c'est un message. Puis j'ai dit oui. Puis là, j'ai commencé à dire oui, comme à ce qui se présentait
accepter.
À moi. C'était comme une thérapie naturel par le puis j'étais un peu égoïste avant, tu sais, je pensais à moi, j'étais là moi, que tu sais, qu'est-ce qui me rend heureuse moi,
c'est
tout
ça.
Puis quand j'ai eu, tu sais, j'ai écrit dans mon livre pendant que mon fils sortait de mon ventre, moi je sortais de mon nombril. Puis c'est comme ça que c'est parti de là.
Écoute-moi, je suis une petite vedette par rapport à toi, une toute petite vedette.
Ben,
et à un moment donné...
Ouais, mais tu ratisses l'air en passant à télé au quotidien.
Mais je suis une petite vedette. Et là, j'attendais tout le temps, j'allais toujours au même bar. Puis j'attendais.
Quand t'avais 18 ans, là.
Non, avant les francs-tireurs, avant que je faisais la télévision, je faisais la queue, blablabla. Là, je commençais à faire la télévision, les francs-tireurs. Puis là, soudainement, je faisais plus la queue pour entrer dans le bar parce que le bodyguard, le doorman venait me chercher puis me faisait passer devant tout le monde. OK, soudainement, parce que j'étais quelqu'un.
Ouais.
Et moi, je me disais tout le temps, le gars qui attendait en arrière de moi, il était peut-être en train de travailler sur un vaccin, sur le sida, ou de travailler sur un truc du cerveau, le bien plus important que ce que je fais.
Ouais.
Mais moi, j'ai ma calisse de face à la TV, je passe devant tout le monde.
Ouais.
Ouais, puis en même temps, j'en profitais.
Ouais, oui. Tu sais, quand on parlait...
Là, j'en profitais, mais en même temps, je me disais...
Ben, c'est comme quand tu racontais...
En même temps, je trouvais ça niaisant en crise, que parce que je suis à TV, soudainement, je peux passer devant tout le monde.
Oui, mais Guylaine a raconté tout à l'heure le gars qui était un peu gêné de coucher avec toi.
Oui.
Et puis, à un moment donné, quand t'es devenu connu, que tu faisais de la télé, il t'a rappelé en disant, on devrait peut-être remettre ça pour... C'est exactement la même chose.
Mais nous, tu sais, parce qu'on fait ça, tu sais, en tout cas, je parle pour moi, mais... Pour moi, ça n'a pas d'importance. T'sais, c'est peut-être parce qu'on est là-dedans, mais t'sais, je ne suis pas impressionnée par quelqu'un avec qui je travaille jamais. T'sais, je suis impressionnée par
la grandeur d'homme,
le talent,
Mais
je suis convaincue, par exemple, que ton regard sur Véro qui est peut-être la personne la plus connue, la plus appréciée, la plus aimée au Québec, que ton regard sur Véro, c'est pas Guylaine qui regarde une fille qui est très populaire, qui a des millions de codes d'écoute, c'est la générosité qu'elle a en
elle. Ben oui.
Ben c'est sûr que.
Ben oui, totalement. Écoute,
c'est mais sûr, je pense là. Qu'on est. On est
c'est fondamentalement une bonne personne, Véronique.
Oui, puis on était dû pour se rencontrer parce que, tu sais, et de son côté et du mien, on a un grand bagage derrière nous, on a des expériences, il y a des vulnérabilités, il y a des souffrances qui ont fait qu'on se rencontre, puis il y a ce juste. Entre nous, il y a beaucoup de joie. Puis c'est ça que je retiens de notre amitié, parce qu'on est devenus des amis au fil des années.
Ben ouais.
C'est la joie, puis comme le respect. Il y a ben quelque chose de nous qui est beau.
C'est sans qu'elle a pu lire ton livre, puis le déposer, puis passer à autre chose.
Ben oui.
Elle aurait pu juste faire sa carrière.
Elle s'est sentie interpellée, elle ne te connaissait pas.
Non, on se connaissait, on s'était croisés à Radio-Canada 2-3 fois. Mais on se connaissait pas en vrai. Là,
j'imagine, elle a lu son livre, là, après ça, elle parlait à Louis, puis elle dit, écoute, là,
c'est ça qu'il
touché, puis là, ils en ont discuté, il y a eu plusieurs discussions là-dessus, puis on le fait dessus, puis on ne fait pas. Moi, je trouve ça touchant, là.
À vrai dire, elle me dit par après que après avoir lu mon livre, elle était dans son lit, puis elle dit, Guylaine, c'est comme si ça m'avait... La phrase m'a rentré dans le cœur. Ça m'a rentré dans le cœur. Puis elle m'a dit, elle a dit à Louis tout de suite, c'est nous, c'est pour nous. Puis elle était comme excitée de ça. Exactement. C'est comme si tu l'avais écrit pour moi. Puis elle l'a cueilli. Puis le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un parent comme moi, c'est pour moi, ça a été d'être entendu. Puis ça, c'est après ça, qu'on construise 1, 3, 4, 5, 10, 15 maisons.
Est-ce qu'il y a des gens qui regardent d'un mauvais œil ou qui critiquent le fait que dans la première maison, ton fils va être dedans?
À vrai dire, il sera pas dans la première maison.
Ah non?
Non, parce qu'il est trop jeune. Il est trop jeune, il a juste 16 ans. Okay. Donc, Clovis va habiter la troisième maison.
Ah.
Donc, on aura le temps d'essayer des affaires.
Donc, 2023.
Exact. Moi, c'est Liberté 55. Moi, quand je vais avoir 55 ans, mon fils va aller habiter dans la maison Véro et Louis. Puis ce que ça m'apporte, c'est la paix d'esprit. C'est la paix d'esprit. Puis ça, tu sais, ça m'émeut beaucoup de dire ça. Puis je peux pas dire en mots le merci que je veux à Véro puis à Louis. Parce que c'est trop...
Moi, je pense que
c'est vraiment extraordinaire. Si on...
Le t-shirt, ils ont fait différent comme toi.
Ouais.
C'est une phrase, c'est toi qui as trouvé la phrase.
Ben, c'est mon... Oui, on pensait à un slogan, puis je trouvais que différent comme toi, c'était très inclusif. C'est-à-dire, tu sais, ça s'adresse à tout le monde, là.
Ouais.
Différent comme toi, puis tu sais, moi, j'ai pas la... Tu sais, moi, j'ai une humilité naturelle, tu sais... Je veux pas qu'on se rappelle de moi pour X ou X ou X choses. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants soient bien. T'sais, mes enfants vivent dignement, puis t'sais, dans un bel endroit. Puis, t'sais, moi, je mourrais demain là, que j'ai changé quelque chose dans la société québécoise, parce que ça n'existe pas.
Ça n'existe
pas, puis on le construit.
C'est un méchant beau. Juste ça, c'est déjà un beau leg.
Écoute, si au-delà de la trimée que t'es, juste de léguer ça.
Quand j'habite au Nunavut, puis je tombe enceinte, c'est la pilule. Si tu m'avais dit, tes enfants vont être autistes, tu vas construire des maisons, tu vas te matcher avec Véro, avec Louis, avec... Au-delà de ça... Pour moi, c'est des êtres humains qui se sont rencontrés pour aider d'autres êtres humains. C'est juste ça pour moi. C'est la société dans laquelle je veux vivre, c'est prendre soin des gens qui ont besoin.
Mais je trouve ça très beau quand tu dis « j'ai réussi ». Il y a peu de gens sur Terre qui peuvent se dire ça. Sérieusement, pensez deux secondes. De se dire « moi, j'ai posé un geste à un moment donné où j'ai changé la société dans laquelle je vis. »
En le sachant pas vraiment. Hein? C'est pas comme... J'ai envoyé ça, puis tu sais, Mais on dirait que mon inconscient savait qu'il y a quelque chose de grandiose qui allait se passer. Je savais pas comment. Je le savais pas. Mais moi, j'ai toujours été convaincue de ma belle vie.
L'esprit a choisi la vie qu'il va faire là. Ouais, c'est ça.
Moi, quand j'étais jeune, je me disais, quelle vie formidable.
Des fois, tu
t'en rends
de quoi, tu
t'en
rends de bâtir de quoi, puis tu fais, pourquoi? Il y a de quoi dedans de moi, là, quand tu t'emmènes à être peu, puis arrêter de te battre avec ça veut aller là, puis c'est là que ça va.
C'est comme un petit saumon qui se fait
attraper.
Excuse-moi, Guylaine, je vais te le dire sincèrement, c'est facile, Moi, je t'écoute, puis tu dis, « Ah, ben là, la vie m'emmène là, la vie m'emmène là. » T'as deux enfants autistes. Dis-moi pas, la vie t'emmène là, puis tu prends ça en disant avec un grain de sel, en disant, « Ah, ben, coudonc, la vie m'emmène là. »
Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je me battrais contre quoi si je disais autre chose?
C'est quoi que ça veut dire? C'est que socialement, si tu veux être une personne correcte, digne, si tu vis avec deux enfants autistes, tu n'as pas le droit d'être heureux?
Non, c'est pas ça. Mais c'est que ça
t'as
doit...
Tu n'as pas le droit d'être libre? Tu n'as pas le droit... Moi, ma vie, là, tout le travail fait sur moi.
T'as pas d'enfant, Peter.
J'ai pas d'enfant. Regarde, mon show s'appelle libre. C'est quoi de la liberté? Je pourrais être marié puis avoir 12 enfants puis être libre, puis je pourrais être célibataire puis pas être libre. C'est tout.
C'est prisons qu'on se construit.
On se fait des barrières constamment partout. Puis le fameux petit Christy livre que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. C'était un outil que je me servais. Puis quand je dis je me souhaite un cadeau, t'as dit le mot cadeau. Moi, ce que je dis au monde, là, c'est exemple, tu es allé à tel place, dans tel pays, j'ai monté une montagne, c'est dégueulasse. Je peux pas vous expliquer comment c'est dur de se rendre en haut, là.
Toi, tu le fais?
Non, mais ce que je dis aux gens, je suis allé en haut de telle place, là. Moi, je vous dis pas d'y aller. Je vous dis juste que ça existe. Mm. Puis je vous dis le chemin que moi j'ai pris. Il y en a d'autres chemins si tu veux y aller. Mais je suis pas en train de te dire, fais ce que j'ai fait. Mais je te dis que ça existe, simplement. Puis
et
la plus belle phrase que
j'ai
écrite,
toi, ça t'a fait du bien.
Oui, puis la plus belle phrase que j'ai écrite dans ce livre-là, enfin, je dis, dans le fond, si vous demandez pourquoi j'ai fait ça, c'est que je voulais juste peut-être semer une graine dans votre tête puis qu'elle descende dans le cœur.
Quand tu es arrivé à la maison, Richard, avec beaucoup de tact, t'as dit, « Oh, Sophie, elle aime pas ça tes cheveux longs.
Ah, » c'est très
bon. Et moi, toi, ta réponse, ben oui, moi aussi, je l'adore, cet homme-là. J'aime sa franchise, sinon je serais pas avec lui. Mais là, ta réponse a été, « Ah, tu t'entendrais bien avec ma mère parce qu'elle non plus, elle aime pas mes cheveux. » Donc, tu es en même temps en train de nous dire, je m'en calisse que ma mère, elle aime pas mes cheveux, mais en même temps, tu es en train de nous dire, ma mère aime pas mes cheveux, donc tu t'en fous pas tant que ça.
Non, non, mais c'est parce que maman en parle.
Ouais.
Ma mère, c'est très important. Ma mère, elle, son rêve, ça aurait été que... Elle m'a sorti une affaire l'autre fois. Personne ne dit jamais ça. Elle me dit, tu sais, j'ai regardé le Mario Dumont matin, elle dit, il y a des beaux cheveux. Il y a une belle tête de cheveux. Il n'y a aucune mère, il n'y a aucun humain sur la terre qui s'en va au dîner et qui font « Hey, Mario Dumont, mais Christy, qu'il y a des beaux cheveux. » Il n'y a personne, Chris. Il n'y a personne. Mais ma mère, c'était une manière de me manger, ça roule.
De te le dire.
Ouais. De te dire, toi, tes cheveux, ça a l'air de
ma mère, là, dans le meilleur des mondes, là, il faudrait que je m'habille comme Patrice Lécuyer et j'ai les cheveux à Mario Dumont.
C'est un bon mix, par exemple.
Ouais.
Moi, je vais trinquer. Richard, donne-moi un peu de
écoute, avant de trinquer, rien qu'un truc. On est allé voir ton show. Puis tu dis, les Chinois conduisent mal.
C'est drôle.
Et là, il y avait un Chinois qui riait, là.
Ben, c'est après ses cuisses, c'est ça. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça drôle. Puis d'être capable de rire d'eux autres, c'est de le faire. C'est comme le dire, vous faites partie de ma gang.
Bon, ben voilà.
T'sais, moi, je exactement. Le disais souvent, quand j'étais petit à l'école, là, écoute, tant qu'ils. Tous ceux qui me taquinaient, pas ceux qui étaient méchants, je parle ceux qui me taquinaient puis te niaisaient, c'est une manière de me dire, hey,
c'est fais partie de la gang.
De rire des uns des autres, sans méchanceté.
C'est ça qu'on appelle ça.
Sans méchanceté, de s'agacer, de se tirer à pipe.
Moi, j'allais voir des shows dans le temps Michel Barbaro, tu te rappelles de lui? Il faisait un numéro sur les Blancs, comment on dansait mal puis on était cons.
Non, mais ça s'appelait « Il y a trop de Blancs au Québec ».
Mais c'est ça. Écoute, Michel, avant malheureusement l'épisode…
Le problème de santé mentale.
Mais écoute, moi, j'étais assis dans ça, les larmes me coulent, on rit. Mais c'est une manière de dire « j'étais avec vous autres », puis nous autres, on trouvait ça là. Puis à l'inverse, hey, là, écoute, j'ai des chums, ils sont noirs. Elles m'en veulent pas. Puis c'est pas les noirs qui veulent pas. C'est nous autres. Hey, mais là, t'as pas le droit de faire pas ça. On se brime, on se prive de choses. Moi, là.
Et de rire de chacun.
Il y a jamais un noir qui m'a dit que j'étais raciste. Il y a juste des blancs qui m'ont dit que j'étais raciste avec mon spectacle.
Ah,
jamais qu'un noir
dit.
M'a dit que j'étais raciste. Jamais. 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 C'est jamais arrivé qu'un noir d'être au petit comme action, pareil, ils sont frileux, là. Tu sais, ils sont tout le temps sur le gun, on est en go, astic. Pendant tout, ils se sentent même pas...
Jamais un noir qui a dit que t'es raciste, mais il y a des blancs qui te l'ont dit.
Tu fais partie de la gang. Ouais. Et on a perdu ça, le côté de... Tu sais, il y en a un, mais je sais pas, quand j'étais jeune, il y en a un qui bégayait, puis on riait de lui, il bégayait. Mais lui, il riait de moi parce que j'étais pas bon en sport, puis j'étais poche. Puis il riait de moi, puis je patinais sa bottine. Puis c'était une façon de dire on
a chacun nos forces et nos faiblesses.
On s'aime malgré nos forces et nos faiblesses, puis on s'aime malgré tout.
Sinon, ça fait quoi?
C'est l'appartenance.
Ouais. Sinon, ça fait un éléphant. Ça fait un éléphant qui existe, qui est là. puis on va faire semblant qu'il on, je le vois pas, il est pas là. Mais c'est pas vrai, ça.
Mais quand je fais des conférences...
Mais quand on réussit à se faire des blagues de même, il disparaît.
Ben oui, quand je fais des conférences, il y a des personnes autistes, adultes, qui sont là, puis je raconte des anecdotes de mes fils, c'est eux qui rient le plus.
C'est sûr.
Ah, ouais. Après ça, ils viennent me voir et disent « Ah, oh, ça, là, j'y ris, là, c'est drôle. »
Ah,
là,
c'est cool.
Ah, oh, ouais, hein? Puis, ouais. Tu sais, des fois, certains parents sont plus frileux parce que se donne pas la permission autiste. De
ah
ouais c'est moi je suis pas autiste non plus cela dit
ben oui.
Mais c'est drôle qu'est-ce que
mais
je te dis
c'est drôle il y a rien de plus drôle il y a rien de plus beau dans la vie tu sais d'être capable
de rire des autres
l'autodérision tout ça c'est ça se perd là. Tout ça se perd on est
en train de
écoute
ça manque de légèreté aussi
oui on a-tu bien fait de les inviter les deux ensemble
comment ça
je sais pas c'est qui a eu ce clé là
ils se connaissaient pas
ça jamais vu
non puis on s'est dit c'est il me semble que ce serait un bon mix puis
ben bravo méchant feeling
on fait des bons mix c'est moi mon père est
notre père est
avec Perrier
ouais à l'éternité de l'amitié les amours
hey merci
merci à vous.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.